Et il n'est pas évident de relier ces différents passages. On passe de la question de la foi, la question du pardon, à la question de la foi, puis après à la question du service, du serviteur inutile, le pardon, la foi, le service. Comment ça marche? Comment ça s'articule tout ça? Fallait-il au contraire les dissocier puis passer de l'un à l'autre sur trois dimanches, par exemple? Moi, je crois que ces trois passages sont liés. Ils sont indissociablement liés. Ils nous parlent, chacun à leur manière, de la même chose. Ils nous parlent du pardon de Dieu et de ses conséquences dans nos vies. C'est donc de pardon que nous allons parler ce matin. Le mot « pardon », rien que sa prononciation, il évoque, je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça, il évoque chez chacun de nous une histoire. Ce mot appuie sur un levier à souvenir. Ce mot remet en scène une histoire douloureuse, une histoire peut-être inachevée. Une blessure recouverte de silence, que sais-je encore? Vous le savez. La question du pardon est une écharde dans la chair de beaucoup d'entre nous. Et l'enseignement de Jésus ici, ses paroles, ont de quoi raviver les vieilles blessures. Parce que, je ne sais pas vous, mais pour moi, il est très dur de pardonner, et qu'en la matière, nous comptons plus de défaites que de victoires. Pardonner, d'abord, pardonner à quelqu'un présuppose que nous soyons dans ce sentiment de victime, que nous ayons vécu une agression, quelque chose que nous ressentons comme tel en tout cas. Et nous n'avons pas nécessairement dépassé le traumatisme lié à cette agression. Il est même arrivé qu'on ait refusé de pardonner à celui ou celle qui nous demandait pardon. Parce que notre souffrance, notre déception, notre amertume étaient à ce moment-là indépassables. On n'a pas pu. Et Jésus ajoute maintenant à notre sentiment d'échec, de frustration, une parole déroutante, nous appelant à devenir de véritables distributeurs automatiques de pardon. Cette fois, à la souffrance de l'offensé s'ajoute maintenant le sentiment de la culpabilité. Je trouve que la facture devient lourde. Bon, il faudrait certainement développer un peu, s'entendre sur ce qu'est le pardon, une définition peut-être. Qu'est-ce que pardonner? On peut poser des questions, est-ce nécessairement devenir le meilleur ami de son agresseur? Je ne pense pas. Cela consiste-t-il à ne plus nourrir de rancune à l'égard de celui ou celle qui nous a fait du mal? Ce serait déjà une avancée magnifique. Mais un point supplémentaire dans l'enseignement de Jésus, nous entendons ici qu'il ne faut jamais brader le pardon. Il ne faut pas passer l'éponge vite fait, mal fait. Parce que ça reviendrait finalement à légitimer le mal. Et Jésus nous met en garde contre cette dérive du pardon au rabais. Si ton frère te fait du mal, reprends-le. Vous voyez, il ne s'agit pas. Laisse tomber, laisse filer. Sois victime et tais-toi. Non, reprends-le. Le mal est pris au sérieux par Jésus, le mal que l'on nous fait, le mal subi. Pas question donc de pardonner au rabais. Le pardon est complexe. Pardonner à quelqu'un, c'est une chose, mais il y a aussi la dimension personnelle. Pardonner à soi-même, se pardonner, ça c'est une dimension compliquée. Une dimension, on va dire, plus psychologique, plus intériorisée du pardon. Ce pardon-là, à soi-même, n'est pas le plus facile des pardons. À qui s'adresser d'ailleurs ? À soi-même ? À Dieu ? Certainement. Voilà, j'ai voulu poser des questions pour et pas donner de réponse tout de suite, parce que c'est pas des questions faciles. Avec ce petit survol des problèmes liés au pardon, nous voyons que cette question-là est centrale. Elle est une question qui peut faire de nos vies quelque chose de bon à vivre ou de terrible, la question du pardon, et à la fois centrale et à la fois complexe. Alors je vous propose de revenir un peu au texte et de relever un certain nombre de choses. Quelque chose qui a accroché mon attention, je ne sais pas vous, mais Jésus, en nous donnant son mode d'emploi du pardon, utilise le verbe pardonner, oui, mais il l'utilise au futur. Si cette fois, dans la même journée, ton frère t'offense, ça vire au harcèlement cette histoire quand même, hein, et que cette fois il se repente, c'est de la repentance quasi pathologique ça, tu lui pardonneras. Pas nécessairement tout de suite. Il n'est pas dit « pardonne-lui ». L'impératif existait en grec, hein. Mais « tu lui pardonneras », le temps du futur n'est pas employé par hasard. Il permet d'injecter dans notre problème avec le pardon, d'injecter une dimension, j'allais dire salutaire, d'injecter dans notre réflexion, dans notre souffrance, une dimension nouvelle, celle du temps. Et donc de l'espérance. S'il y a du temps, il y a de l'espérance. Comme si, en ajoutant cette dimension du temps, comme si le pardon était une promesse, non plus un impératif à exécuter, mais une promesse dont la plénitude, dont la réalisation parfaite était à venir, là-bas, à l'horizon. Comme si son accomplissement, finalement, était tout entier contenu dans la personne même de Dieu. L'emploi du futur ici nous dit que le pardon existe. Il existe en soi. Il existe en dehors de moi. Il est une réalité. Je n'ai pas à l'inventer, le pardon. Il existe en Dieu. Ça, c'est rassurant. Parce que si on devait l'inventer, alors là, on serait vraiment dans la difficulté. Il existe. Nous ne sommes pas les maîtres du pardon. Dieu seul est le maître du pardon. Donc cet emploi du futur nous dit ici, ne t'inquiète pas, Dieu est pardon. Il va créer des circonstances nouvelles. Il te fera cheminer dans le temps, malgré toi, vers ce pardon qu'il te faut, ce pardon vital qu'il te faut donner, cette fois, s'il le faut. Cette fois, c'est-à-dire, c'est le chiffre de la plénitude, hein, donner le pardon jusqu'au bout, totalement. Et tu découvriras un jour alors, peut-être même sans le savoir, tu réaliseras que tu es un homme, une femme libre de tout ce que nous avons évoqué, l'amertume. Voilà ce qu'il y a dans ce futur Alors, les disciples ont tout de suite compris que cette leçon sur le pardon en rafale les disqualifiait complètement. Les voilà maintenant en train de demander une augmentation de foi. Ils pensent tenir là la solution de leur problème. Avec cette augmentation, voilà. Ils sont prêts à signer tout de suite pour un stage de formation de pardon, une session intensive de développement de la foi, personnelle, enfin, voilà, il le faut. Hein. L'exigence est quand même élevée. Dans la réponse de Jésus, bon, je ne sais pas vous, mais je ne sens pas Jésus particulièrement emballé par cette demande d'augmentation de la foi. Parce qu'à ses yeux, l'aptitude au pardon, la sainteté personnelle, tout cela n'a pas grand-chose à voir avec la dimension de la foi. Alors il va leur raconter une histoire du troisième type, une histoire de graines, de la moutarde, puis il y a un sycomore qui s'envole, qui fait un plongeon dans la mer. Vous imaginez la tête des disciples qui viennent juste de demander une augmentation de la foi, hein? S'ils demandent cette augmentation, vous êtes d'accord avec moi qu'ils sont déjà convaincus d'avoir peu de foi, hein? De toute façon, même avec peu de foi, eux n'arrivent à rien, ils n'arrivent pas à faire voler les sycomores. Et notre foi, votre foi, est-ce qu'elle vaut beaucoup mieux que celle des disciples, frères et sœurs? Puisque sans parler de faire voler les chaînes, on n'arrive même pas à faire un petit miracle de ramassage des glands sur le parking, quoique hier j'ai eu quelques anges qui sont venus et qui ont ramassé. Je suis témoin de ça. Puis de toute façon, je ne vois pas tellement l'utilité de faire voler, enfin de déraciner les arbres. Les écolos vont nous tomber dessus, on aura des procès. Que veut nous dire Jésus avec cette histoire de graines de sycomore? La question est très importante. Il dit d'abord que nous n'avons pas besoin d'une augmentation de la foi. Qu'avec ce tout petit peu de foi, on peut réaliser de beaux et de grands pardons. La question n'est donc pas la taille de la foi, mais uniquement sa mise en œuvre, son activation, son engagement. Premier point. Et ça, c'est l'image de la graine qu'il dit. Il n'est pas besoin de sortir d'une grande école d'agronomie pour savoir qu'en regardant fixement une graine posée là, dans le creux de votre main, il ne se passera rien du tout. Il faut la mettre en terre. Il y a un geste, un acte. Nous n'avons pas à nous préoccuper de la qualité, de la forme, de la pureté, de la grosseur de notre foi, mais seulement de sa mise en œuvre. Les résultats suivront rapidement et ils seront étonnants. Jésus nous dit donc, entendez-le, que notre foi peut être minuscule, mais que ça ne doit pas être un problème. Il y a des semences même qui ne se voient qu'à la loupe, tellement elles sont petites. Peut-être même au microscope. Et c'est tellement petit la foi que quelquefois même ça se perd. Certains croient ne pas avoir la foi alors qu'ils l'ont simplement égaré. Ils ne s'en souviennent plus. Trop petite. Bref, de toute façon, cette toute minuscule petite foi n'a pas vocation à être ausculté, mais seulement planté. Voilà. Il ne faut pas, attendre de devenir de super croyants, des super héros de la foi, avant de pardonner ou de s'engager dans la vie personnelle avec Dieu et, avec, et dans l'Église. Non, il faut juste commencer par retrousser ses manches, débroussailler un petit coin de notre existence un peu encombré, travailler un peu un petit coin de terre là dans nos cœurs et puis planter. Je suis absolument convaincu à cause de cette parole ce matin que ce qui va arriver ensuite tiendra du miracle. Les vieux sycomores de la culpabilité et de la rancune vont se mettre à voler dans ta vie, mon frère, ma sœur. L'impossible pardon, c'est le titre que j'ai donné à cette méditation, l'impossible pardon sera accordé. Et il libérera non seulement votre agresseur, qui en a besoin de ce pardon, mais il guérira aussi votre cœur de victime, juste avec un peu de foi. Dans la pensée juive, la mer est le lieu de la perdition, du chaos. Les Israélites, n'étaient pas des navigateurs. Hein. C'est les Libanais, les Phéniciens qui naviguaient. Mais... Parce que la mer, c'était un lieu qui contenait toutes les forces de mal, de mort, etc. Et donc, avec un tout petit peu de foi, il nous est promis ici un arrachement de ces souvenirs douloureux qui plombent, qui détruisent même nos existences, l'arrachement de ces vieilles croyances qui nous ligotent, qui nous enferment dans la culpabilité. Vous voyez le miracle, sa puissance. La libération de ces vieilles peurs religieuses ou existentielles, que sais-je. Il est promis à chacun une guérison sans passé pour vivre le moment venu, gardons quand même le futur hein, en tête, pour vivre le moment venu, une illumination du présent. Avec la question du sycomore, là, on a un peu avancé. Je ne peux pas terminer cette méditation sans évoquer brièvement la parabole du serviteur aux trois casquettes. Vous avez vu, hein ? Il est laboureur, berger et cuisinier. Pas mal. Quelle santé ! Les métiers du serviteur, d'ailleurs, ne sont pas du tout choisis par hasard, et on peut faire facilement le lien avec ce qui précède. Il faut commencer par labourer en profondeur pour le vieux terrain de nos vies, pour planter cette petite graine du pardon, petite graine de notable. Nous l'avons vu. La foi n'a pas comme seul théâtre de mise en scène le culte du dimanche matin. Elle a vocation à ensemencer tous les domaines de la vie personnelle, de la vie privée, de la vie professionnelle, familiale, et tous les jours de la semaine. Voilà, c'est ça, le théâtre de la mise en scène de la foi. Semer et laisser faire. Quittons un peu cet idéal de maîtrise, vous voyez. Semer et laisser faire. Faire confiance à la terre, à l'Esprit de Dieu. Et vivre dans l'espérance. Ça, c'est le laboureur. Ensuite, il faut devenir des éleveurs, des bergers. Parce qu'on ne grandit pas dans la foi tout seul. Mais on grandit dans la foi, dans la vie chrétienne, en prenant soin des autres. L'Église ne va jamais aussi bien que lorsqu'elle s'occupe des autres. L'Église ne va jamais aussi mal que lorsqu'elle se focalise sur son orthodoxie, sur la grosseur de sa foi. On pourrait croire que toute la vocation du chrétien est dite maintenant dans ce double travail du laboureur berger. On va pouvoir souffler un peu. Mais non, c'est mal connaître le maître. Il faut encore cuisiner pour lui. C'est la troisième casquette du cuisinier, du serviteur, il est cuisinier. Et là, certainement, ce serait intéressant de faire un petit sondage pour savoir comment vous entendez hein, cette dimension-là de la cuisine, parce qu'il y a certainement, c'est un peu ça les paraboles, plusieurs manières de le comprendre. Mais je dirais que Dieu a besoin de notre engagement. Notre engagement dans le pardon. Plus largement, notre engagement contre toutes les forces de mort qui emprisonnent tant de vie dans ce monde. Et ce qui est dit dans ce maître qui est à table et qui attend qu'on le serve, c'est que Dieu ne fera pas sans nous. Au contraire, il se nourrit de notre service. C'est difficile à croire. Parce qu'en y réfléchissant bien, et c'est une grâce incroyable, Dieu a besoin de nous. Il ne veut pas faire sans. Il a besoin de nous pour appeler notre monde au pardon et à la liberté en Jésus-Christ. Il a besoin de nous pour soulager les souffrances. Il ne fera rien sans nous, l'Église du Christ. Apprendre à cuisiner pour Dieu, nous retrouvons le sens évoqué par Emmanuel, hein. Faire monter vers lui le fumet d'un service gratuit, le sacrifice de bonne odeur, de notre amour, de notre abandon, de notre louange, de notre reconnaissance pour ce pardon si difficile, peut-être si puissant, et finalement à portée de main. Ce pardon qu'il veut nous accorder aujourd'hui. Alors, sœurs et frères, je nous souhaite à tous, tous serviteurs inutiles que nous sommes, de devenir des chefs, des cordons bleus.